Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Matt était au trophée NFP. Hein.
J'avais la chance et le privilège d'être invité au trophée NFP. Ouais.
Et donc, meilleur entraîneur, c'est qui ?
Bruno Genesio.
Tu t'es jamais posé la question comment ça se fait que le meilleur entraîneur de Ligue 1, il coach très rarement les 4 plus gros clubs français.
Le meilleur entraîneur français de Ligue 1 ?
Ouais.
Si, je me suis souvent posé la question, j'ai pas souvent trouvé la réponse. Donc, si tu as quelqu'un qui peut nous aider sur ça ?
Écoute, tu vois, justement, je vais entrer en contact avec Franck Thivillier.
Ouais.
Qui bosse à la DTN, DTN adjoint. Et ce serait très intéressant de savoir comment il est formé et qu'est-ce qui leur manque aux entraîneurs français pour éventuellement entraîner soit les gros clubs français, soit les gros clubs à l'étranger.
Ouais, ça surtout, parce que tu as aussi des entraîneurs français en France, t'en as, pas dans les gros clubs, mais en plus, tu n'as pas beaucoup d'entraîneurs français à l'étranger non plus. Donc, il y a un sujet. Bah, écoute,
qu'est-ce que tu en penses ?
Allons voir Franck.
Allez, super.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu-Lille Palette.
Salut à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode, puisqu'on l'a dit la dernière fois qu'on disait épisode et pas numéro, d'Alternative Football. Comment va Monsieur Cissé ?
Il va très bien.
C'est vrai ?
Mathieu, il va très bien.
Et puis surtout, là, il est dans son élément naturel, Monsieur Cissé, parce qu'on a la joie d'être accueilli à...
Clairefontaine.
Absolument. Et la personne qui nous accueille, et on est ravis de ça, c'est Franck Thivillier, qui est directeur technique national adjoint à la Fédération Française de Football. Salut Franck.
Bonjour à tous, et puis très heureux de vous accueillir à Clairefontaine.
Merci Franck.
On est ravis. Ça nous change un petit peu de notre studio habituel. Alors le studio, Marc Achlimier va mal le prendre si je dis ça, le studio est très bien, mais c'est vrai qu'être dans cet écran aujourd'hui, c'est particulièrement appréciable pour les fans de football que nous sommes, est-ce que nous restons, n'est-ce pas ?
Alternative Football.
Alors on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est un DTN ? C'est quoi la mission du DTN déjà ?
D'accord. Bon, déjà peut-être resituer rapidement, si vous le voulez bien, peut-être mon parcours pour
bien
que
sûr.
Ça permette de resituer un peu DTN. Déjà, à la base, moi, j'ai plutôt un parcours de footballeur puisque j'ai arrêté les études très tôt. Alors, j'en suis pas forcément fier, mais j'avais un objectif, c'était de devenir joueur professionnel. Donc, il se trouve que j'avais 2-3 qualités. J'ai joué dans Saint-Étienne en jeune. Après, je suis parti au centre de formation de Lyon. J'ai fait quelques sélections en jeune ici. Et puis après, bon, je suis pas passé joueur professionnel et j'ai joué pendant 12 ans. En troisième division à l'époque et nationale. Et dans les clubs dans lesquels je suis passé, j'étais toujours coach, je m'occupais d'équipe, j'étais impliqué dans le projet du club. Donc j'ai toujours été très inspiré par la dynamique de club et ainsi de suite. Quand j'ai arrêté ma carrière de joueur, j'ai arrêté ma carrière de joueur à Brive-la-Gaillarde et j'avais négocié avec le club une reconversion professionnelle et je me suis trouvé adjoint du conseil technique départemental. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir le métier de conseiller technique et toutes les facettes du métier de conseiller technique. Et parmi ces facettes, il y en a une qui m'a tout de suite... je me suis dit, bah, c'est ce que je veux faire de ma vie après le foot. C'était la formation des entraîneurs. Pourquoi ? Parce que de par mon... Je ne sais pas si c'est mon ADN, mais j'aime l'humain, j'aime le contact, j'aime la relation, j'aime comprendre, j'aime partager. Et ce métier me permettait de faire tout ça et de rester dans mon univers qui était le football. Après ça, ben, je vous parle de ça il y a 26 ans, j'ai franchi différentes étapes dans le métier au sein de la direction de la fédération et je me suis retrouvé à DTN. D'abord vraiment dans un profilage formation des entraîneurs. Et puis il se trouve qu'on m'a confié quelques responsabilités et aujourd'hui, j'ai la responsabilité de coordonner un grand département sur la direction technique nationale qui est en charge de la recherche, de l'enseignement et du développement international. Alors on a voulu associer l'ensemble, le directeur technique Hubert Fournier a voulu associer les trois éléments parce qu'il y a une cohérence en fait. La recherche, on se pose des questions et on essaye d'y répondre. On traduit ça en contenu de formation, d'enseignement, et puis après on peut aussi l'expatrier, puisque c'est aussi une discussion qu'on aura sûrement sur l'international. Donc mon rôle, c'est la coordination de ce grand département avec une trentaine de collaborateurs directs et indirects sur le plan national, une cinquantaine plus toutes les équipes à côté. Mais on va détailler, j'imagine.
On va détailler, puis on va commencer tout à détailler. Du coup, concrètement, quand vous arrivez le matin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les premières missions? J'imagine que ça change en fonction du matin, mais s'il y avait une trame comme ça du métier...
Il n'y a pas un matin qui se ressemble, parce que si j'ai mes matins à Clairefontaine, traditionnellement, à Clairefontaine, j'arrive très tôt, parce que je suis plutôt quelqu'un qui se lève tôt, donc j'arrive très tôt, et le matin, en fonction de l'activité de la journée, je prépare mon activité de la journée, ou si l'activité est moins dense... je travaille sur les dossiers qui sont des dossiers en développement. Parce que mon rôle à moi, en tant que directeur adjoint, c'est je suis sur le travail de projection, d'animation des équipes, d'imaginer ce que sera demain le football. Et puis, j'ai la coordination directe du BEPF. Donc, c'est aussi un gros dossier. Voilà.
Tu peux expliquer ce que c'est le BEPF pour les...
Alors, le BEPF, c'est la formation des entraîneurs professionnels en France, la licence UEFA Pro. Mais j'ai aussi d'autres dossiers, puisque je représente la fédération dans le cadre de l'UEFA sur le panel GIRA UEFA, où ça regroupe les techniciens européens pour discuter du football européen. Et je représente aussi l'UEFA à l'Union européenne dans des groupes de travail sur le coaching. Donc, je n'ai pas forcément des matins qui se ressemblent, puisque selon où je me trouve, l'activité va bouger, va changer. J'ai beaucoup d'interactions aussi avec différents univers, parce que je suis très, très curieux. Et donc, il m'arrive d'être dans le monde de l'entreprise, il m'arrive aussi d'être dans différents univers.
Et tu parlais de recherche, notamment comme l'un des piliers aujourd'hui sur lesquels tu travailles. Le monde de l'entreprise, ça participe à ce travail de recherche. C'est-à-dire que le fait d'aller en entreprise, pour être un peu plus clair et un peu mieux formuler ma phrase, tu vas en entreprise rechercher des méthodes pour t'inspirer ensuite et les apporter dans la formation des entraîneurs dans le football, ou c'est simplement de la curiosité, voir comment les gens travaillent dans d'autres milieux?
Alors, j'ai arrêté l'école très tôt. Et comme je dis, j'en suis pas fier parce qu'il a fallu que je rattrape tout le retard que je me suis pas infusé avant, donc ça n'a pas été simple. Mais après, quand j'ai commencé à me reconstruire et à construire ma vision, ma pensée, j'ai été inspiré par un chercheur qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré dans ses travaux, décédé maintenant, qui s'appelait Henri Laborie, et qui définissait la notion d'expertise. Et je pense qu'on va en parler de la notion d'expertise, c'est vraiment important de comprendre. Il définissait la notion d'expertise, il disait que l'expert est un monotechnicien polyconceptualiste. C'est-à-dire qu'il travaille dans un domaine, mais il se nourrit de l'ensemble du domaine, des différents domaines. Le monde de l'entreprise, par exemple, prenons pour le football, le monde de l'entreprise peut être extrêmement nourrissant. Le monde de la recherche, c'est un monde particulier, la recherche. Quand on n'est pas chercheur, de comprendre les mécaniques qu'il faut mettre en œuvre pour installer des protocoles de recherche et comment ça s'articule, c'est quand même un métier particulier. Faut avoir conscience de ça. Mais aussi l'aspect social, parce que je suis aussi, comme je vous dis, j'aime l'humain, donc je m'intéresse à toutes les dimensions sociales, et puis plein de choses. Donc tout ça, c'est pour mettre ça au service de ta propre activité, avoir du fond, quoi. Être capable de pouvoir parler avec tout le monde, mais aussi du football, parce qu'il y a aussi l'activité centrale qui est l'activité foot, et je voyage beaucoup en Europe, dans le monde et en Europe, pour voir ce qui se passe un peu dans différents endroits.
Alternative football.
Justement, cette question arrive peut-être un peu tôt, parce que j'imagine qu'il y a d'autres éléments plus tard qui nous permettront d'expliquer, mais quand on travaille à la DTN de l'équipe championne du monde, est-ce que du coup on est plus attendu dans les autres pays d'Europe pour parler de la manière dont on fonctionne? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet sur ton travail, le fait d'avoir gagné la Coupe du Monde il y a 4 ans, ou est-ce que ça n'a pas vraiment changé les choses sur le regard que les gens portent sur l'activité du football français?
Non, le football français est toujours très observé de par le monde, mais il est clair que quand on gagne une compétition majeure, comme ça a été le cas avec Didier et l'équipe de France là, dernièrement, du coup ça augmente encore la visibilité, c'est sûr. Et dans le cas ce que je vous expliquais, puisque dans mon périmètre j'ai le développement international, ça fait partie, on est extrêmement sollicité. On a énormément de sollicitations. Après, il faut aussi trouver les ressources pour pouvoir déployer et répondre aux demandes. Mais bien sûr que ça a un impact.
Et les sollicitations, elles viennent de fédérations du coup, étrangères qui... c'est ça
Oui, alors notre... une fédération travaille avec une fédération, traditionnellement. Alors on peut avoir des échanges et des partages avec d'autres aspects, mais c'est principalement l'axe de collaboration, et c'est de fédération à fédération.
Et est-ce que tu, aujourd'hui, tu peux mettre le doigt sur ce qu'ils veulent savoir, ce qu'ils viennent chercher chez nous?
Ce qui nous définit de la part de, souvent quand on est observé, c'est la qualité des joueurs que nous avons. Parce qu'on est quand même le premier exportateur de joueurs dans les cinq championnats majeurs, ça aussi.
Et je crois qu'on est le deuxième au monde derrière le Brésil, c'est ça ?
Absolument. Ouais. Mais le premier sur les cinq championnats majeurs. On est le deuxième au monde derrière le Brésil.
Sur le monde entier, mais
premier sur les cinq championnats majeurs. Et puis après, donc, si vous avez de bons joueurs, c'est que derrière, il y a de bons entraîneurs. Il y a une logique de causalité quand même. Donc aussi, la formation française des entraîneurs français est observée, questionnée. On est souvent sollicité pour mettre des dispositifs en place à l'étranger. Et ce qui fait aussi une force, mais c'est une force aussi de l'État français globalement, c'est qu'on est très bien organisé. En fait, quand les fédérations viennent observer, voir ce qui se passe chez nous, et quand ils voient notre structuration et notre déclinaison au plus petit des espaces en France, on a une très grosse organisation, donc ça peut être aussi inspirant pour eux pour mettre en place des systèmes.
Le squelette en fait de l'organisation, ouais, de la performance, c'est l'une des choses pour lesquelles on est reconnu.
Oui, mais on a une histoire, parce que le sport en France a été construit autour justement des cadres d'État, des cadres d'État sportifs qui étaient là pour développer d'abord la formation dans les fédérations, et puis après derrière déployer la performance, la formation des joueurs et ainsi de suite. Mais c'était d'abord, donc on a une histoire, et d'ailleurs nous dans notre système on a encore beaucoup, de moins en moins malheureusement, mais on a encore des cadres d'État qui sont des chevilles importantes, ouvrières importantes de notre système de formation, de performance et de fonctionnement.
Et cette ingénierie de la formation à la française, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui fait justement notre spécificité au-delà de ces structures et de l'histoire dont tu nous parlais, qui a permis de la créer cette structure? C'est quoi aujourd'hui la formation d'un entraîneur à la française?
Déjà, pour comprendre ce qui définit la formation française, enfin en soi, c'est de comprendre comment elle s'organise. Parce que nous, on dépend de deux... On a deux cadres de référence. Le premier, alors je vais essayer pour vos auditeurs d'être assez simple, parce que c'est assez complexe. On a deux cadres de référence. Le premier cadre de référence, c'est que en 2012, on devient propriétaire, la fédération devient propriétaire de ses diplômes. Parce que l'État dit les brevets d'État vont s'arrêter. Donc à l'époque, le directeur technique François Blacard nous pose la réflexion, qu'est-ce qu'on fait, vers où on va? Est-ce qu'on va dans les diplômes d'État proposer, ou est-ce qu'on prend nous-mêmes, on propose notre propre filière de formation? Et on est parti sur la construction d'une filière de formation. Mais ça ne se construit pas comme ça, une filière de formation. Parce qu'il y a des organismes qui évaluent, qui contrôlent, qui habilitent. Et donc on a un cahier des charges très précis en fonction des niveaux de qualification dans lesquels vous allez vouloir construire une formation. On a des niveaux de qualification de niveau 4, 5, 6. Donc tout ça, c'est des niveaux d'exigence très forts. Donc il faut répondre au cahier des charges pour pouvoir installer une filière de formation en France qui dépend particulièrement actuellement de l'État français, France Compétences, la CNCP, la Commission nationale des certifications professionnelles et ainsi de suite. Et puis après, on a un autre cahier des charges qui est celui de l'Europe, de l'UEFA. On est signataire de la convention JIRA Coaching, où il y a des minima pour pouvoir prétendre organiser des formations et délivrer des licences UEFA. Donc on a en fait un mixte à faire entre un enjeu très fort au niveau de l'État qui nous dit, pour pouvoir être reconnu et avoir une habilitation française, enfin pour être reconnu et habilité, voici le cahier des charges. Et puis de l'autre côté, vous avez les minima UEFA. Et c'est ce mixte qui fait qu'on construit une formation professionnelle en France, puisque je parle de la formation professionnelle. On a une activité de 43 000. Attention, c'est pas sur la formation professionnelle, mais en global, toute notre formation par an, c'est 43 000 éducateurs et éducatrices formés par an. Et 3 000 sur la formation professionnelle. 3 000 sur la formation. Donc c'est quand même des volumes énormes. Si on additionne toutes les ressources humaines qui font de la formation en France, c'est plus de 1 000 personnes par an. Moi, j'ai dans mes équipes, j'ai des gens qui font tourner un système qui est à la fois complexe, mais très ambitieux, parce qu'on va en parler tout à l'heure. On a l'ambition d'être aussi une référence. Et donc, on se donne les moyens de construire ça. Mais je vais rentrer plus dans le détail. Voilà déjà pour poser un peu le cadre global.
Alternative football.
Prenez l'exemple des joueurs pros qui deviennent entraîneurs. On a, je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais l'impression aujourd'hui que c'est un prérequis. Et en tout cas, il y a la majorité des entraîneurs, je ne sais pas si tu as des chiffres, Franck, sur ça, la majorité des entraîneurs semblent avoir été des pros. Alors ma question, c'est est-ce que c'est un prérequis et si ça n'en est pas un, est-ce qu'il y en a d'autres des prérequis pour pouvoir être entraîneur? Pas nécessairement prétendre à la formation, mais derrière devenir un entraîneur.
En fait, je pense que c'est une idée reçue. Parce qu'en fait, si tu veux, prenons par exemple la formation du BEPF. On a fait, vous avez les chiffres devant les yeux. Depuis 5 ans, on a fait une petite étude. Il y a 24% des coachs qui n'ont jamais été pros qui rentrent en formation.
24%.
Oui, d'accord. Donc c'est quelque part une idée reçue qui.
Vous n'avez pas scindé le truc. Tu parles du BEPF, c'est ça?
Ouais.
Ah, d'accord.
Ouais.
Moi, j'étais au BEF.
Non. Là, prenons le cadre de cette année sur le DES. On va avoir plus de 70 candidats. Et j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais on a 65% qui viennent du monde amateur. Voilà, donc il y a beaucoup de croyances et d'idées reçues sur tout ça. Donc effectivement, nous on est sûrement pas assez bons pour communiquer et faire savoir. Et après, en tout cas, toujours est-il que nous on veille à ce que les familles, l'ensemble des familles du football soient représentées dans les formations. Ça c'est important parce que c'est un football global qu'on développe. Et il faut pas oublier que les grands joueurs et tous les entraîneurs ont commencé dans les clubs amateurs. Hein. Alors certains, c'est assez rare, mais certains ont commencé dans les clubs professionnels aussi. Mais c'est toute notre vivier, il est dans le football amateur. Et puis bon, moi de par mon parcours, j'ai quand même passé 13 ans à jouer, certes dans des clubs de niveau national, mais à l'époque c'était des structures amatrices. Donc non, j'y suis extrêmement attentif aussi. Et mon parcours personnel fait que je suis attentif à toutes les familles et mes collègues aussi. Pour autant, puisqu'on va parler aussi des aspects sur les... Quand tu as été joueur professionnel, tu as une connaissance de l'environnement qui te permet de gagner du temps aussi. Quand tu es qu'on retourne dans le métier d'entraîneur, tu te reconnectes à l'environnement très vite et tu as des réflexes par rapport à l'environnement que le joueur qui lui a été dans le monde amateur et bascule dans le monde professionnel, il les aura, mais il va falloir qu'il s'acclimate. Donc il y a un gain de temps potentiel. Mais après, face au résultat, tout le monde est pareil. Là, je veux dire, quand tu es qui que tu sois, face au résultat, l'issue est la même.
Pour corroborer ce que Franck dit, moi quand j'ai fait les tests pour passer le DES.
C'est quoi le DES?
Diplôme d'État d'éducateur sportif, non, c'est ça?
Diplôme d'État supérieur, mais on parlera tout à l'heure peut-être de la filière.
C'est pour entraîner jusqu'en national, c'est ça? Tu expliqueras mieux. Moi, grosso modo, pour corroborer, moi j'ai passé donc l'entretien. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en amateur, quoi, qui travaillaient même en mairie.
L'entretien, c'est préalable à la formation, c'est-à-dire que pour pouvoir faire la formation, tu dois passer un entretien, c'est ça?
Bah, en fin de compte, tu as un projet, quoi. Tu dois expliquer ton projet. Okay. C'est pas juste là, je vais avoir le diplôme, quoi.
Mais je peux peut-être expliquer ça, parce que c'est important aussi d'expliquer que toutes nos formations, en fait, elles ont à peu près toutes la même structure. C'est-à-dire que, un, tu as des prérequis, parce que cette logique nous est imposée par l'État. Tu as un prérequis, après, tu as des tests.
Le prérequis qui est de...
Bah, les prérequis dépendent des diplômes, et je ne vais pas les énumérer, ça serait beaucoup trop long.
Ça dépend des diplômes. C'est un ensemble de diplômes que tu dois avoir pour pouvoir prétendre à la formation.
Parce que les prérequis dépendent à la fois d'une qualification, mais aussi surtout d'abord d'une expérience.
D'accord.
Voilà. Et après, une fois que tu réponds aux prérequis, tu rentres dans la phase de test. La phase de test, c'est globalement à peu près tout le temps, dans toutes nos formations, c'est deux épreuves. C'est un entretien de motivation, où là, tu dois démontrer pourquoi tu viens suivre cette formation. Qu'est-ce qui va faire que tu veux rentrer et pourquoi tu veux y rentrer dans cette formation et en quoi cette formation va être nécessaire pour toi. Et puis le deuxième, c'est un entretien sur la dimension pédagogique. Ça va être aussi en lien, alors c'est pas forcément dans toutes nos formations, dans toute l'entrée de formation, mais il y a la dimension sur la connaissance de l'activité et ta capacité à faire une analyse de pratique sur ce que tu fais. Par contre, faut pas oublier quelque chose, c'est que nous, dans le cadre de la formation professionnelle, ce qu'on nous demande, on a deux enjeux. On a un enjeu très fort, c'est structurer notre football et de mettre dans nos clubs des éducateurs et éducatrices qualifiés qui vont monter en compétence le système. Mais aussi, on est observé par l'État qui nous dit « Attention, vous faites de la formation professionnelle, ok, on vous valide, on vous habilite, mais les gens qui viennent se former chez vous, c'est parce qu'ils viennent, ils doivent aller travailler, ils ont un emploi. La finalité de la formation professionnelle, c'est l'employabilité. Si vous faites des formations professionnelles et qu'il n'y a pas d'employabilité, il n'y a pas lieu de faire de la formation professionnelle. Donc on a aussi une logique de veiller à l'employabilité. Et puis après, une fois que la personne est rentrée en formation, il y a ce qu'on appelle un positionnement. Et le positionnement correspond à... On regarde l'adéquation entre le projet, les compétences et le parcours et voir si on peut faire soit du renforcement, soit des allègements. Après, il y a l'ensemble de la formation, le cursus de formation qui se décline. Et bien sûr, les certifications et les rattrapages, s'il y a lieu. Mais voilà, c'est un peu toujours la même logique qui s'opère sur toute la mécanique de formation.
Et cette formation, ça c'est Edouard qui m'en parlait, elle est plus longue qu'ailleurs, c'est ça ? C'est-à-dire que les formations...
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans tout le processus, quand t'es un ancien joueur et que tu veux passer tes diplômes d'entraîneur et parce que tu veux être entraîneur professionnel, globalement, t'arrêtes ta carrière, donc tu réponds aux prérequis et tu as le BEF... le DES, et avant c'était 2 ans de BEPF, et maintenant c'est rendu en une année. Donc globalement, t'arrêtes ta carrière, si tu décides d'être entraîneur professionnel, entraîner les professionnels de Ligue 1, il te faut 3 ans. En jeu schématise, Franck, bien entendu, mais pour
si tu enchaînes l'ensemble...
Si t'enchaînes, bien sûr. Ça, pour certains joueurs, c'était pas suffisamment... C'était trop long. Parce que justement, à l'étranger, et je parle sous contrôle de Franck, que ce soit en Espagne ou en Pays de Galles, tu peux avoir ce diplôme, c'est l'UFAA, c'est ça ? La possibilité d'entraîner
ça, je vais en parler.
Sous 18 mois ou sous 12 ou 18 mois.
Alors, Espagne et Pays de Galles. C'est intéressant, merci de me donner l'opportunité de clarifier tout ça. Parce que je suis...
Il est toujours très intéressant.
C'est pour ça, parce qu'il y a un fantasme derrière.
Oui, il y a beaucoup d'idées reçues, j'imagine. Enfin, c'est pas j'imagine, parce que c'est un sujet qui revient assez souvent. Alors, il y a un cahier des charges UEFA. Le cahier des charges UEFA, il est assez clair. À partir du moment où on délivre la formation sur la scène européenne, il faut passer UEFA-B, UEFA-A, UEFA-Pro. De toute façon, c'est 3 ans. Tu es d'accord avec moi ? UEFA-B, UEFA-A, UEFA-Pro, ça c'est la filière UEFA. Voilà, c'est un an. Voilà. Ça c'est là. Après, il peut y avoir, dernièrement, effectivement, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué en panel Gira, et on a fait exploser un petit peu une dérive qu'il pouvait y avoir en Espagne, où là, maintenant, c'est terminé, puisqu'il y a la logique de la formation en Espagne a été basée, puisque maintenant, c'est terminé, je tiens à le dire.
Depuis quand ? Récemment,
bah, depuis 2 ans, à peu près, depuis un an et demi, 2 ans. C'est le collègue qui a repris le dossier a tout reclarifié. Mais ce n'était pas facile, parce qu'en fait, l'État espagnol a donné beaucoup une forme de délégation aux régions pour organiser la formation. Et donc, c'était les régions qui délivraient beaucoup de licences pro, et la fédération, au final, elle n'avait pas le même niveau de regard qui pouvait se passer. Du coup, là, maintenant, c'est terminé. Les régions continuent à faire de la formation, mais les licences UEFA ne sont délivrées que par la fédération et en petits effectifs. Ça, c'est une première chose. Déjà, ça faut dire que ça a été clarifié. Après, la logique, c'est toujours 3 ans. Ça reste 3 ans. Et chez nous, c'est 3 ans aussi. Parce que, en fait, la licence B, qui correspond au BMF chez nous, on a eu l'accord de l'UEFA pour regrouper la licence A et B, puisque la licence A, nous, elle a un tel volume qu'elle est regroupée.
D'accord.
Et après, dans notre architecture, ce qui n'existe pas sur la scène européenne, c'est qu'on a le DES. Alors, pourquoi on a pris le DES ? Ça aussi, ça fait l'objet d'une réflexion et d'une stratégie qu'on a voulu avoir et installer. C'est que c'est un diplôme d'État qui permet à des personnes qui viennent se former à la fédération de pouvoir prétendre aussi à aller se présenter aux concours des collectivités territoriales sur des fonctions de conseiller, d'éducateur et autres. Mais aussi, comme tenu que le DES n'est pas une référence, un référencement UEFA, ça nous permet, entre guillemets, parce que je dis bien entre guillemets, d'une forme de sécurisation de nos éducateurs sur les niveaux National 2 et National 3. C'est-à-dire que tu es obligé, si tu veux venir travailler en France, d'avoir ton DES. Donc c'est une forme de sécurisation quand même, il faut quand même se le dire. Aujourd'hui, c'est pas histoire de faire du protectionnisme, mais c'est pour dire quand même que ça donne une forme de sécurité. Et c'est Voilà, sur ça. Mais après, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur...
Mais pour en revenir donc en Espagne, donc tu confirmes, c'est la même chose que pour nous. Non, ils ont
c'est
trois
la
ans.
Même chose. Donc, il y a un cursus, il y a un cursus. Après, attention...
Le joueur espagnol pro, il arrête sa carrière.
Ouais.
Il veut devenir entraîneur professionnel.
Ouais. Il enchaîne. Il est obligé d'enchaîner B, A, pro.
Voilà, donc c'est vraiment, tu vois, moi j'avais entendu qu'il y avait des anciens joueurs qui allaient en Espagne.
Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas eu à l'époque des dérives. Maintenant, dans le cadre du panel Gira UEFA, nous on y est très vigilants. Mon collègue qui, dans nos missions à nous, j'évalue des pays et j'habilite des pays par rapport à leur capacité à pouvoir délivrer les licences UEFA.
C'est dans le cadre de ta mission UEFA, pardon.
C'est dans le cadre de ma mission UEFA. Par exemple, la Belgique, j'évalue la Belgique, j'évalue la Suisse, l'Irlande. Et puis le Danemark. Voilà, jusqu'à présent, j'étais sur ces pays-là. Et donc, on a le cahier des charges de l'UEFA et on vérifie que tout est bien en adéquation. Bon, après, il y a parfois ce qu'on appelle, pour certains projets de formation, des demandes exceptionnelles de parcours raccourcis qui correspondent à des dispositifs très spécifiques. Mais c'est très, très à la marge, ça. C'est très, très, très à la marge.
Et c'est quoi ces dispositifs et pour quelles raisons ?
Non, mais ça peut être, par exemple, si tu veux, on a un nombre limité. Généralement, nous, on a un nombre limité pour la licence pro. Par exemple, la licence pro, c'est 10 candidats par an. Bon. 20 tous les deux ans. Prenons l'exemple de la Pologne qui dernièrement a fait une demande de dérogation. Elle a un besoin de former. La licence pro, pour l'instant, en Pologne, n'était pas nécessaire sur la deuxième division et sur les adjoints de la première division. Et ils voulaient monter en compétence tout le monde et tout. Donc, ils ont demandé sur un parcours, sur quelques périodes, de pouvoir faire en sorte d'avoir plus de volume à former pour pouvoir avoir une stratégie de formation renforcée. Et ça, oui, ça s'étudie. Après... nous, on veille à tout ça. Enfin, mes collègues, on est quand même, l'UEFA est quand même bien, bien organisée. Nos collègues qui coordonnent les dossiers le font non, sérieusement.
C'est rassurant parce que moi, j'étais resté sur... globalement, en France, on est chiant. Il faut 4 ans à l'époque pour être entraîneur pro. C'est revenu à 3 ans. Et puis, tu vas en Espagne ou au Pays de Galles, pour ne citer que... Voilà, en 18 mois, grosso modo, tu peux être entraîneur et puis t'es un petit peu énervé. Mais,
bon,
mais
j'ai envie de vous dire, peut-être on rentre sur un sujet qu'on va évoquer plus après, mais plus en détail après. Mais aujourd'hui, c'est aller toujours plus vite. Il faut aller toujours plus vite. Mais au final, l'espérance de vie, là, le CUS a fait, une étude sur l'espérance de vie, là, je l'ai devant les yeux, c'est 380 jours, un entraîneur français. Il faut s'équiper un peu quand même. Je veux dire, il faut aussi prendre le temps d'avoir un peu de recul. Voilà, j'ai envie de dire quelque part. Moi, je fais pas une obsession que la formation devienne longue, mais en même temps, il faut un peu s'équiper. Et même quand tu es équipé, tu n'es pas à l'abri du dérapage. Donc, ouais. À un moment ou à un autre, je veux dire, quelque part, de chercher à aller vite, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie toujours.
Ça fait effectivement penser à l'histoire du permis de conduire que tu vas passer à l'étranger parce qu'il est plus simple et comme tu es ensuite en Europe, tu as le droit de conduire avec en France.
Ouais, mais c'était surtout, tu sais, quand tu es français, tu veux toujours dire, tu te dis, putain, pourquoi les Français, on est aussi chiants, quoi, tu sais, que ça. Et en fin de compte, il y a une explication parce qu'effectivement, tu t'improvises pas parce que c'est pas parce que tu as été un grand joueur ou un ancien joueur professionnel que tu vas transformé du jour au lendemain en bon entraîneur. Pourquoi ? Parce que t'aimes le foot. C'est le fameux j'aime le foot, c'est ma passion, donc je vais devenir un super entraîneur. Non, attends, t'as un projet à mettre en place, tu dois fédérer, tu dois manager un staff, c'est plus la même chose, tu dois penser à d'autres personnes que toi. Et donc ça s'apprend effectivement.
Alternative football.
Et tu touches sur un des cœurs de sujet qu'on voulait évoquer avec toi, Franck, c'est la perception des entraîneurs français à l'étranger. On a, encore une fois, c'est peut-être une impression, peut-être que tu as des chiffres pour contredire, mais on parlera après des joueurs. on a l'impression que, on n'a pas l'impression, le joueur français est très apprécié à l'étranger. Les chiffres le confirment parce que c'est le, dans les 5 grands championnats européens, c'est le pays qui exporte le plus et c'est le deuxième le, qui exporte le plus au monde. On n'a pas la perception que ce soit la même chose au niveau des entraîneurs. C'est-à-dire que,
entraîneur français.
Entraîneur français, ouais. C'est-à-dire que l'entraîneur français s'exporte mal. Est-ce que c'est, là encore, est-ce que c'est, ça ne se vérifie pas par les chiffres ou est-ce que tu fais le même constat et tu as des éléments d'explication?
Alors, s'exporte mal l'entraîneur français. Peut-être sur les grands championnats majeurs, c'est plus compliqué, effectivement. Mais ça tient pendant les Allemands. Les Allemands qui sont en poste et qui jouent les championnats européens, en fait, tu t'exportes quand tu es visible sur la scène européenne, en fait, globalement. C'est assez vite résumé.
Mais alors, fais confiance très tôt. Tu vois, il y a Nagelsmann, il a 35-36 balais. Bon, il a fait, effectivement, il a 3-4 saisons auparavant, il s'est fait remarquer. Mais j'ai l'impression qu'en France, il va falloir que les entraîneurs français fassent beaucoup, beaucoup plus.
Non, je suis pas sûr. Regarde Julien Stéphan, regarde ouais, Franquès, regarde. Non, mais on a des
jeunes. Fonctionne bien, mais est-ce que pour autant à l'étranger, on va de suite penser à eux?
Alors après, je pense que c'est un autre problème. Moi, pour avoir étudié, avoir discuté de ça avec Raymond et puis avec Hubert, parce que c'est une préoccupation quand même. Alors il y a deux choses. Je voudrais revenir déjà par rapport à la scène internationale. On a quand même un réseau d'entraîneurs à l'étranger qui est quand même assez important. Peut-être pas sur les grands clubs et autres, mais quand même, on est assez présent en Afrique. On a dans pas mal de continents, on a beaucoup d'entraîneurs qui travaillent. Et d'ailleurs, et Raymond nous avait interpellé sur ça, il nous a dit comment ces entraîneurs peuvent-ils faire pour pouvoir faire leur formation professionnelle continue, puisqu'ils ont une obligation de formation professionnelle continue, et on a développé depuis 2 ans et demi une formation à distance qui fonctionne très très bien, où chaque année on a une quinzaine de coachs qui suivent la formation et qui travaillent sur la scène internationale. Ça, c'est la première chose. Donc se dire qu'on est nulle part, c'est faux. Par contre, se dire qu'on n'est pas assez présent sur des grosses structures, je pense qu'on a eu quand même de bons représentants et il faut s'en réjouir, mais peut-être pas assez, mais je pense que ça tient à une autre logique. Par exemple, prenons le cas du Portugal. Le Portugal, ils ont un système d'expatriation qui est quand même assez bien organisé, avec une connexion avec l'État français, avec l'État portugais, avec les syndicats, avec les agents. Il y a vraiment une synergie de toutes les forces en présence pour favoriser le déplacement de ces entraîneurs à l'étranger. Et avec, derrière, une recherche de « quand je m'en vais, je place un collègue à moi ». Donc, je pense qu'il y a vraiment une stratégie à développer, un peu comme les Allemands, quand les Allemands négocient, l'État allemand va négocier des marchés en Chine, prenons l'exemple, parce que c'est un collègue allemand qui m'avait expliqué ça. Il se déplace avec la fédération et il négocie l'installation de Volkswagen dans une région et en même temps il négocie l'installation de coach dans la même région. Donc c'est, je pense qu'il y a une stratégie, il y a des stratégies à développer. Aujourd'hui, on ne les a pas développées. Et alors après, on me dit toujours, oui, mais c'est aussi un problème de langue. De moins en moins.
C'est exactement ce que j'allais dire. De moins en moins. C'est notamment Bruno Genesio qui l'évoquait en 2021, oui, je crois.
Moins en moins, parce que pour plusieurs raisons. C'est qu'aujourd'hui, parce que je sais que c'est une question que vous allez me poser, parce qu'on me la pose assez souvent, pourquoi vous ne faites pas des formations avec des langues et tout. Par exemple, faire de la formation, nous on y est, on sensibilise, on booste, on demande aux coachs d'aller se former, mais c'est une formation qui doit être individuelle. Pourquoi? Parce que déjà, on fait de la formation pour être coach. Après, on accueille un collectif, pendant le cas du BEPF. Dans le BEPF, j'ai 10 candidats par année, et sur les 10, j'en ai 4 qui parlent couramment, j'en ai 3 qui ne parlent pas du tout, et j'en ai les autres qui sont intermédiaires. Comment on fait pour faire un cours?
Tu es obligé de faire 3 cours.
Tu fais 3 cours. Ouais. Comment? Et après, pour pouvoir travailler sur le terrain, il te faut des groupes qui soient des groupes qui soient capables de... Tu peux parler avec eux. Donc ça veut dire que tu partes à l'étranger ou tu fais venir des groupes de l'étranger. Donc je pense que sincèrement, là, il y a une prise de conscience, puisqu'on le voit de plus en plus, et c'est un sujet que nous, on appuie dessus. Alors on va se rapprocher aussi, parce qu'on a des possibilités de connexion avec des sociétés qui font du digital learning, ou du e-learning plutôt, et qui ont des bons produits de formation sur... l'anglais football, là on est en train de travailler sur ça, on est conscient de ça, mais c'est en train de bouger plutôt dans le bon sens. C'est en train de bouger dans le bon sens. Voilà, donc on...
Après, tu as dit un truc qui je trouve très intéressant et hyper pertinent et que je vois beaucoup aussi en entreprise, c'est que le fait d'être formé et d'avoir accès à la formation sur le métier ne doit pas t'empêcher à titre personnel de compléter ton profil. Et, l'acquisition de la langue, typiquement, c'est ça. Tu as beaucoup de gens d'entreprise qui vont, qui sont formés dans le cadre de leur entreprise à leur métier, mais qui vont par ailleurs apprendre une langue parce que c'est nécessaire pour leur métier. Donc il y a des responsabilités qui incombent au formateur, et il y a aussi, en tant que personne, être acteur de sa formation et dire bah, ça je ne l'ai pas, ce n'est pas le rôle de la formation de me le donner, donc je vais aller le chercher ailleurs.
Oui, et puis il y a un paramètre quand même. Si on prend le monde professionnel, aujourd'hui, les effectifs, ils sont multiculturels. J'ai d'ailleurs donc du coup, même en France, beaucoup de coachs ont de multiples nationalités. Donc ils sont déjà confrontés à l'anglais. J'en parlais il n'y a pas si longtemps avec Joss Gourvennec. Ils sont confrontés à avoir déjà une communication. Et ils ne peuvent pas faire l'économie de ça. Quand tu veux entraîner en première division, en Ligue 1, en France, tu dois avoir un minimum, sinon tu es en difficulté.
Franck, pour résumer, tu sous-entends que la problématique des entraîneurs français, pourquoi il n'y a pas d'entraîneurs français à l'étranger, ce serait un manque de lobbying de notre part.
Je le sous-entends pas. Je pense qu'on a un manque. Alors le lobbying, je ne sais pas si c'est
attends,
bon mot.
Attends, je te pose la question. Comment ça se fait donc, quand même, dans notre pays, dans les trois clubs les plus gros français, on va dire, Lyon, Monaco, Paris, il n'y a aucun entraîneur français, c'est plus d'entraîneurs étrangers?
Alors, déjà, si tu veux, il faut dissocier, à part Lyon, il faut dissocier Paris, Monaco, puisque ce sont des propriétaires étrangers. Donc déjà, les propriétaires étrangers, ils ont des stratégies aussi avec des réseaux, très souvent, qui sont des réseaux d'influence étranger. Donc, ils ont des systèmes qui font qu'ils sont beaucoup plus influençables par l'étranger. Après, Lyon, je ne vais, pas m'exprimer sur le choix de... Sur le choix
non, mais il y en a d'autres aussi, je pense. De Lyon. C'est trois plus médiatisés.
Oui, mais
donc
on est par exemple... Typiquement, si tu veux, on fait partie des pays où il y a le moins d'entraîneurs étrangers dans les championnats aussi. Parce que le CIUS a sorti une étude là, que j'ai devant les yeux. On est dans les pays les moins exposés aux entraîneurs étrangers. Donc ça veut dire quelque part que nos entraîneurs français, ils font le taf, ils font bien le taf. Et en plus, ils ont une qualité.
Je sais qu'ils font bien le taf, c'est pas ça le sujet. Moi, je comprends qu'ils font bien le taf parce qu'ils sont formés, ils sont vraiment bons. La preuve pour preuve, tu as deux super anciens joueurs, que ce soit Didier ou Zizou, qui sont venus se former ici. Tu vois, en France, donc il n'y a aucun souci. Mais c'est quand même un truc de dingue, quand même. Que quand tu es au Paris Saint-Germain, tu dises Mauricio Pochettino, que j'apprécie énormément, il va de suite, c'est un nom qui vient. Et puis même dans la shortlist, je ne suis pas sûr qu'il y ait un entraîneur français.
Mais c'est encore d'autres. Je pense que c'est d'autres logiques, parce que quand tu prends des exemples comme Paris Saint-Germain, ils sont sur un niveau d'objectifs où ils se situent sur aussi des catégories d'entraîneurs qui sont dans ces niveaux d'objectifs. C'est-à-dire, t'as une. T'as
donc
une
pour l'instant, il n'y a pas d'entraîneur français
non, mais
qui
une
est
niche.
Dans cette
niche. Si, il y a des entraîneurs français. Je pense qu'il y en a, mais dans cette niche-là, puisque dans cette niche-là, pour l'instant, ils ne sont pas choisis. Pour moi, il y en a. Mais ils ne sont pas choisis.
Je sais, voilà. Mais voilà.
Je pense aussi que tu as un marché des gros clubs. Quand tu prends les plus gros clubs, et ça me fait plaisir que tu n'aies pas cité Marseille dans les grands clubs français. Je te félicite pour ça, monsieur.
Il y a le quatrième, il y a Marseille aussi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce que j'ai les quatre plus gros clubs français.
Quand tu prends le Big Six en Angleterre, par exemple, je suis pas sûr que tu aies un seul coach anglais.
Non.
Je pense que c'est vraiment l'Italie qui se démarque ayant des Italiens. Le Real, c'est un Italien. Donc, est-ce que t'as pas deux marchés en fait? Auquel cas la question est plus vaste. Est-ce que t'as pas le marché des 1%? Je pose la question à Franck.
Moi, je constate seulement moi.
Et bah, est-ce que c'est les clubs qui sont le 1%, c'est-à-dire les très gros clubs, avec effectivement en général des propriétaires qui soient des fonds d'investissement, soit des fonds souverains, qui ont des logiques, qui ont des approches différentes? La considération sur la nationalité de l'entraîneur, elle n'existe pas. C'est simplement prendre les 10 mecs disponibles qui sont les plus en vue. Et tu as ensuite un second marché qui est le socle du football, qui sont dans chaque championnat les 15 à 17 clubs restants, qui eux se concentrent sur le marché local d'entraîneur. Et tu vois, je pense à l'Angleterre comme ça, ça m'est venu comme ça, mais c'est, typiquement la première ligue, c'est un peu ça, c'est-à-dire que t'as le top 6 qui va chercher des entraîneurs étrangers quels qu'ils soient, et derrière tu vas retrouver un petit peu les mêmes entraîneurs toujours qui vont passer d'Everton à Aston Villa, Southampton. Est-ce que aussi là l'explication c'est que en vrai t'as deux marchés des entraîneurs comme tu as deux marchés des joueurs?
Oui, bah ça peut être un niveau d'explication, mais je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de logique d'influence et il y a des entraîneurs de toute façon qui sont sur des niveaux de performance et d'entraînement, de compétition depuis des années sur les Ligues des Champions régulièrement, qui ont une historique, qui les ont gagnés ou qui gagnent régulièrement, qu'une récurrence de performance parce qu'ils ont été dans les grands clubs, ils tournent dans les grands clubs. Voilà, c'est comme ça. Et puis après, il y a de jeunes entraîneurs qui arrivent, enfin qui sont moins connus, à qui on va donner leur chance, ils peuvent la saisir. Je pense que c'est une discussion que j'avais eue avec Tourelle. Tourelle a s'est construit aussi comme ça, mais je pense qu'il y a aussi derrière les réseaux d'agents, il y a aussi des réseaux d'investisseurs qui sécurisent aussi leur investissement avec une perception de l'entraîneur qu'ils choisissent, parce que maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand même, mais beaucoup d'entraîneurs sont choisis à partir des datas. Enfin, de plus en plus, on y va.
Je suis un peu au courant.
T'es un peu au courant de tout ça. Je veux dire, il y a des recrutements qui se font à partir de l'analyse des datas sur le style de jeu, sur la performance, sur la capacité à faire jouer des jeunes, sur voilà. Donc du coup, là, on rentre dans une autre étape du recrutement de joueurs, parce qu'on était la semaine dernière. On finissait la formation du BEPF et on était en train de travailler sur se vendre et comment on va se vendre et comment on va travailler pour justement présenter son projet. Et là, on a travaillé sur... Ils avaient un travail sur justement la démonstration sur le projet, sur, et ainsi de suite. Mais là, aujourd'hui, pour certains recrutements, tu passes par l'analyse préalable du data.
Bien sûr.
Après, tu passes par l'analyse préalable des tests psychologiques, parce qu'il y a des coachs qui font aussi dans des clubs européens assez structurés, voire français, ils passent aussi par l'analyse des tests psychologiques, par ta capacité à travailler en équipe, ta capacité, voilà. Il y a des phases nouvelles qui sont en train de s'opérer, et je pense par contre que nous, enfin je le répète, mais parce que je suis très proche de, maintenant j'ai une très bonne connaissance des coachs, je suis assez proche de beaucoup d'entre eux, et je vois le travail qu'ils font, moi je suis admiratif.
Il a profondément évolué. Le travail, ce qu'ils fournissent au quotidien. Avant, ils tuaient le temps. Ouais, je n'ai pas peur de le dire. Ils tuaient le temps. Maintenant, le temps, il est vraiment efficient.
Moi, il y a deux choses qui me frappent par rapport à l'étranger. Deux choses qu'on demande aux entraîneurs français, qui est incroyable, qui est moins présent, je trouve, ailleurs. La première, c'est qu'ils ont un niveau d'adaptabilité qui est énorme. Parce que chaque année, comme la vente de joueurs est la variable d'ajustement économique pour le club, ton effectif... On te vend tes 2, 3, 4 meilleurs joueurs chaque année pour équilibrer le budget. Et ça veut dire que derrière, tu repars à zéro. Il faut retrouver, et chaque année, tes 2, 3, 4 très bons joueurs, il faut les remplacer. Et puis, deuxième chose, quand un entraîneur étranger arrive en France, il arrive avec une armada. C'est une PME, quoi.
L'entraîneur français, il peut le faire, mais sauf qu'il pense...
Quand il arrive en France, il n'a pas les mêmes pouvoirs, si tu veux, d'imposer un staff et un effectif.
Il a son prépa, son...
Je vais pas dire seul, non, mais au moins avec un effectif, un staff beaucoup plus réduit que un système de performance qui peut être organisé. Donc moi je suis admiratif sur la capacité à s'adapter, à répondre aux problématiques. Et le championnat français, il est reconnu comme étant assez rigoureux quand même. Hein, on a des entraîneurs qui sont très très rigoureux. Donc et c'est pas facile de venir jouer quand les joueurs étrangers viennent jouer dans les championnats français, c'est pas non plus une sinécure. Hein. Je veux dire, le championnat français reste un championnat difficile à jouer.
Alternative football.
Et je reviens sur la data, parce que là, pour le coup, on est dans mon domaine. Est-ce que tu penses que dans cette analyse de data, pour une raison qu'on ignore sur ce que les gens recherchent, les entraîneurs français ne ressortent pas assez, c'est pour ça qu'il y a moins d'exposition parfois à l'étranger. Et la deuxième question dans la question, qui est ma spécialité, hein, la question à tiroir, c'est, alors, je le sais parce que je sais ce qu'on me demande, mais je voudrais avoir ta vision sur le type de data qui est analysé pour recruter un coach. À ton avis, qu'est-ce que les gens regardent, qu'est-ce que les analystes regardent pour recruter des coachs en termes de data?
Alors, ce qu'on m'a souvent expliqué, parce que je ne l'ai pas vécu moi personnellement, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est déjà sur le projet de jeu. Parce qu'en fait, ce qui est analysé, les investisseurs, quand ils prennent un club, ils veulent faire du spectacle quand même. Il y a une logique de spectacle qui est derrière le fait de jouer. Et après, la capacité, la deuxième gros indicateur, c'est la capacité à faire jouer des jeunes. Parce que ça veut dire aussi que tu peux mettre en évidence des joueurs et que ça va favoriser la vente potentielle. Donc ça, c'est les deux grands indicateurs, on va dire, observés. Et puis après, il y a une analyse sur la performance brute. Nombre de matchs joués, comment tu les as gagnés, nombre de... Voilà, donc il y a une analyse sur la performance brute.
Alors effectivement, ça rejoint complètement l'étude de demande qu'on peut nous avoir de la part des clubs qui cherchent des entraîneurs. On a beaucoup... aujourd'hui de demandes sur tout ce qui est vulgairement, mais ce qu'on a vulgarisé comme étant la menace. C'est-à-dire qu'on va regarder à quel point l'équipe se met dans des situations de menacer l'autre offensivement. Effectivement, c'est des choses qui reviennent beaucoup sur les circuits préférentiels en attaque, le nombre de temps passé dans les 30 derniers mètres, c'est des choses qui reviennent beaucoup. L'autre chose qui revient souvent et de plus en plus, c'est la capacité à répéter le même schéma. C'est-à-dire, en gros, les mecs se disent, on va vouloir axer un recrutement très précis sur un type de formation. Il faut qu'on prenne un coach qui sait la reconduire et qui va avoir des idées très précises sur les joueurs qu'il veut pouvoir mettre ce...
Ça, c'est qui fait ces demandes-là ?
C'est les directions sportives.
C'est absurde. Ouais. C'est totalement absurde. D'autant plus que la data va chercher donc de la data passée. Alors, et si tu tombes sur un entraîneur qui s'adapte, et d'ailleurs un entraîneur doit s'adapter, c'est complètement absurde.
Alors,
c'est
l'air de... Oui et non, tu es obligé de regarder le passé effectivement parce que c'est de la data, c'est du froid, mais aujourd'hui la grande mouvance de notre métier dans la data c'est la prédiction, je sais ce que tu vas me dire, c'est absurde.
Pas de soucis, c'est un bon business model, en fait, tu mets des chiffres, des trucs, c'est génial, c'est
l'idée, l'idée c'est d'utiliser toutes les datas que tu as déjà eues pour essayer de comprendre ce qui peut se passer. Bien sûr, c'est un outil, et ça je le répète à chaque fois qu'ils veulent l'entendre, mais la réalité c'est que ça peut paraître absurde, mais aujourd'hui c'est utilisé par... j'ai pas envie de te dire 100% des clubs parce que c'est pas vrai.
C'est pas parce que c'est utilisé que.
En général, c'est utilisé par les bons.
Je comprends.
En soi, le danger, et c'est là où tu as totalement raison et tu sais que sur ça on se rejoint, c'est de croire que ça suffit. Alors que c'est comme l'ensemble des autres outils. Tu parlais de la psychologie, tu parlais de la formation, etc. C'est une des dizaines de briques, cette analyse préalable de la data, qui va te permettre de trouver, je pense, le bon coach. Après, je trouve ce qui est surtout nouveau, c'est que ce soit utilisé pour recruter des coachs. Nous, pendant des années, on a eu des deals avec des agents et des clubs sur le recrutement des joueurs. Mais rentrer l'analyse data dans le recrutement des coachs, c'est un phénomène qui est relativement récent.
Moi, la data, je trouve que, d'ailleurs, dans le cadre du centre de recherche là, qu'on est en train d'installer et de développer, on va avoir tout un secteur et on souhaite travailler avec vous. Tu es au courant du projet qu'on a. Voilà. Donc, on a tout un secteur qu'on souhaite justement développer autour de la machine learning et des aspects prédictifs. Cependant, comme je dis toujours, la data, c'est un très bon outil. C'est ce que tu en fais qui est un problème, qui peut devenir un problème. Parce que la data, c'est autant anxiogène que ça peut t'aider à régler des problèmes et à prendre des décisions. Mais par contre, c'est très anxiogène, la data, parce que c'est des données brutes qu'on te met. Par exemple, on m'a expliqué quelque chose qui m'a interpellé. Dans le championnat anglais, c'était mon collègue Chris Carling qui m'expliquait ça. Effectivement, 90% des buts, 95% des buts sont marqués dans la surface de réparation. Mais t'en avais 5% qui étaient marqués à l'extérieur quand même, tu vois, de la surface de réparation. Et bien, depuis qu'on a renforcé ça, sur les dernières données, il n'y a plus de buts de l'extérieur de la surface de réparation. Ça veut dire que la data oriente les comportements, et ça veut dire que avant, tu frappais de loin, maintenant, tu vas arrêter de frapper de loin.
Pourquoi ? Parce que tu as 2% ou 5% de chance de marquer.
Voilà.
Et c'est un truc de fou. Hein.
Ouais, c'est quelque part dans les intentions, parce que le summum de la construction d'un entraîneur dans son projet et dans son identité collective, c'est dans les intentions, qui est la capacité qu'il a à construire les intentions de ses joueurs. Ça, c'est important, j'insiste. J'insiste parce que c'est un travail qu'on fait aussi avec un chercheur qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, qui a un peu la référence sur le sujet de la concentration et de l'attention. Si tu ne vois que ce que tu as l'intention de faire,
Et ça, je suis très, très heureux de t'entendre dire, parce qu'on pourrait penser qu'en vendant de la data, je prône le tout data, mais le plus important dans l'application de la donnée et des modèles prédictifs, et d'une certaine mesure aussi de toutes les théories tactiques, etc., je pense que c'est la qualité des gens qui vont parler le langage. Et quand je dis parler le langage, c'est qu'ils vont être capables de traduire ces données brutes, le froid, à la réalité du terrain. Et Et c'est dans la formation, donc les entraîneurs, les directeurs sportifs, etc., ou les analystes dont c'est le métier, leur permettre de créer le lien entre ces deux mondes qui sont, je pense, différents, c'est ce qui va te permettre d'avoir une stratégie de data pertinente. Parce qu'effectivement, sinon, tu crées de l'angoisse, tu crées des limitations, et tu crées aussi du stéréotype, à savoir, il faut jouer comme ça, sinon on n'y arrivera pas. Ce qui est très éloigné de la vérité.
Pour moi, si tu veux, la clé sur les sujets à venir, c'est la personnalisation de la data au projet que développe l'entraîneur. Il faut que la data réponde aux questions que l'entraîneur se pose. Il faut que les dashboards qui sont produits ne soient pas des dashboards anxiogènes avec des chiffres de tous les côtés qui, au final, quand on les lit, on ne sait plus qui fait quoi, à quoi ça correspond, mais que ça réponde vraiment au projet de jeu de l'entraîneur, au projet qui se...
Voilà. Il y a eu pendant longtemps tout un mythe autour de la data, à savoir les coachs adorent ça, ils viennent regarder, et c'est pas du tout nous ce qu'on ressort des discussions qu'on a avec nos clients. C'est quand on parle notamment aux analystes dans les clubs et qu'on leur demande, mais les échanges avec le coach, c'est quoi? C'est le coach vient me voir pour une chose. Il y a un aspect qui veut travailler sur le champ d'action pour avoir la data, et c'est ça qu'il me demande. Et en tant qu'analyste, son métier, c'est à ce moment-là de savoir répondre à ça. Donc il y a tout un travail, justement, dont je parlais d'avant, d'analyse, de parler le langage préalable qui est nécessaire, pour que quand le coach a une question qui effectivement est liée à son projet, que ce soit sur le recrutement d'un joueur ou sur un projet de jeu, il soit capable d'y répondre. Et c'est là où on revient sur le fait que c'est un outil, et il faut avoir les bonnes personnes pour manier les outils.
Ouais Matt, je suis dans le studio avec Marc et on s'est rendu compte que l'épisode il était bien dense et qu'il serait peut-être plus judicieux de faire de le scinder en deux épisodes. Donc dis-moi si ça te pose pas de problème.
Salut mon pote, écoute, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça a été un long et bel entretien, donc ce serait dommage de pas faire profiter les auditeurs de l'ensemble. Donc ouais, go pour deux parties, super idée.
Ouais, super. Donc du coup, l'épisode sur l'identité de jeu à la française, il sortira dans 15 jours. Ok, ok. Allez, la bise.
Alternative Football. Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.